بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, le samedi, le 21 du mois de l'Hijja de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 7 juin 2026. Donc nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala pour poursuivre ensemble notre lecture de ce livre, les A'lam al-Sunnah al-Manshura, ou les 200 questions au sujet de la croyance de Cheikh al-Allama Hafid al-Hakami, qu'Allah lui fasse miséricorde. La croyance, c'est la foi que tu dois avoir. Donc si vous restez très peu de temps, essayez d'être concentré au maximum. De sorte à ce que si je vous pose une question sur ce que je vais dire, vous saurez répondre. Donc, la croyance en islam, c'est quoi? C'est la foi que tu dois avoir au sujet des six piliers de la foi. Quels sont les six piliers de la foi? Tadal. Toi qui veux aller jouer rapidement. Donc chacun dit un pilier de la foi. Oui? La foi? En Allah, l'iman billah. Un autre. Mais si je t'entends, c'est moi qui méritera un cadeau. Faut que tu hausses la voix. Oh, t'as dit deux, Harry. C'est toi qui mérites le cadeau à ce moment-là. Taïb, quatrième. Le t-shirt vert, là. Taïb, quelqu'un peut l'aider? Tadal. Kutubi, ses livres. Cinquième. Le t-shirt bleu. Taïb. Toi, mashallah, t'as bien révisé ta leçon. Oui? Liyoum al-akhir. Ou al-qadr. Donc ça, c'est les six piliers de la foi. Donc, quand on parle de la croyance, c'est ce que tu dois croire au sujet de ces six points. Et ça, c'est la chose la plus importante en islam. Il n'y a pas plus important que ça en islam. Et après les six piliers de la foi, vous savez que nous avons cinq piliers de l'islam. N'est-ce pas? Alors, qui peut me citer les cinq piliers de l'islam? Allah Mubarak, toi, tu as bien révisé aujourd'hui. Tfaddal.
La prière.
Avant. Dans l'ordre. Shahadatan, les deux attestations de foi. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tu peux pas être musulman sans prononcer ces deux attestations de foi, tout en comprenant leur signification et en acceptant tout ce qu'elles impliquent. Après, tu deviens musulman. Taïb. Ensuite, le deuxième pilier le plus important de l'islam, sans lequel t'es pas musulman. Naam.
Salat.
C'est mieux que ce que ton frère a dit, la prière. Salat. La prière, ce n'est pas la salat. Une prière, c'est une invocation. Amma, il faut dire salat. Ensuite, Salat, c'est une condition dans l'islam. Donc, pour que tu sois musulman, faut que tu fasses la salat. Même si tu fais des péchés à côté, faut que tu continues à faire la salat. Ensuite, shahadatan, salat, ensuite l'argent. Ça s'appelle comment, le pilier où il faut sortir l'argent. Il faut aider les autres. Naam? Oui? T-shirt bleu? Tu veux répondre ou là tu te grattes les cheveux là? Hein?
Zakat,
ya salam. Excellente réponse. Naam. Excellent. Zakat, ensuite. Pendant Ramadan. Naam. Réponds.
Jeûner.
Jeûner. Ça s'appelle comment en arabe?
Saum.
Saum. Ahsant. Et le dernier pilier des cinq? Tfadal, le t-shirt bleu. Hajj al-Bayt. Hajj al-Bayt, il est mané sata'a, il est sabi. Ya salam. Mashallah, vous êtes bien là. Faut qu'il vous donne des cadeaux, les responsables de la mosquée. Est-ce qu'il y a un responsable ou il n'y a aucun responsable? Malheureusement, il n'y a pas de responsable aujourd'hui. Lakin, c'est un cadeau pour la prochaine fois, si vous venez. Et surtout, si vous n'êtes pas précipité de partir à jouer. Taïb. Et nous, on s'est rendu au cinquième pilier de la foi, qui est la foi au jour dernier. Et dans le cadre de la foi au jour dernier, nous parlons de tout ce qui arrive après la mort. De tout ce qui arrive après la mort, le jour dernier, sa définition, c'est quoi? Si quelqu'un te demande, c'est quoi le jour dernier? Tu dis, c'est tout ce qui suit la mort. C'est tout ce qui suit la mort. Tadal, qu'est-ce que tu as de plus à dire? Naam?
Yom
al-Qiyama. Ahsant, mashallah, Allahumma barik. C'est bien. Donc, ça me fait penser, de voir Allahumma barik autant d'enfants, ça me fait penser à des points très importants dans l'éducation des enfants. Pour, yani, parmi les points très importants dans l'éducation des enfants, c'est de les éduquer sur la croyance, sur la foi, l'aqida. C'est ça qui lui donne une forte personnalité. Car c'est l'aqida, c'est une appartenance à la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a pas plus fort que ça. Aussi, il faut qu'il apprenne la langue arabe. Ça le relie à sa communauté. C'est pour ça que les ennemis de l'islam font leur maximum pour éloigner les musulmans de la langue arabe. C'est très important que tu parles la langue arabe. C'est primordial. Je peux vous dire que c'est impossible de comprendre ta religion sans la langue arabe. Tu vas rester toute ta vie dépendant de quelqu'un qui te traduit. Le troisième point, c'est de connaître l'histoire. Si tu apprends l'histoire de l'islam et des muslimines, tu vas ressentir une immense fierté d'appartenir à cette communauté. Et quand on parle de l'histoire, on parle en premier de l'histoire du prophète. Comment on l'appelle? Comment on appelle l'histoire du prophète, alayhi salatu wassalam? C'est une science. Elle s'appelle la science de... Qui peut répondre parmi les adultes? Ou là parmi les enfants? Tfaddal? Sira. Naam. Ça s'appelle Sira, la biographie. Ça, c'est l'histoire du prophète, alayhi salatu wassalam. D'où il vient, c'est quoi sa ligne généalogique, sa famille, comment il a grandi, son enfance, quand est-ce qu'il a reçu la révélation, et une fois qu'il a reçu la révélation, qu'il est devenu le prophète et le messager d'Allah, alayhi salam, les deux grandes étapes dans sa da'wa, l'étape qui s'est faite dans la discrétion, qu'on appelle l'étape secrète, car ils étaient persécutés et torturés par Kuffar Quraysh, ils leur empêchaient d'appeler à l'islam, et ensuite, la deuxième étape de Ad-Da'wa al-Jahriya, où ils ont appelé ouvertement à l'islam, tout ça pendant la période mécoise,
qui a duré 10 ans. Et ensuite, Nabi alayhi salam a émigré. Il a construit le premier pays de l'islam à Médine. Le premier état de l'islam à Médine. Il est resté à Médine pendant 13 ans. Donc, c'est 23 ans durant lesquels il y a eu énormément d'événements. 23 ans qui ont permis aux musulmans de partir de zéro. Les grandes puissances de l'époque, telles que les Romains et les Persans et les Chinois c'était toujours un empire. Adlé Chinois. Ça a toujours été un empire, Adlé Chinois. Donc c'était une grande force aussi à l'époque. Lakin, ils n'étaient pas mélangés aux problèmes des Romains et des Persans. Ils étaient de leur côté. Avec la médecine, ou l'acupuncture, ou hijama. Donc, had les Chinois ou had les empereurs, tous, yani les musulmans, pendant ces 23 ans, ils ont soumis tous ces empereurs. En 23 ans seulement, ils sont partis de zéro. Ils ne représentaient aucun intérêt pour ces puissances. Ils les appelaient les chiens du désert. Aucune valeur. Ça n'intéressait personne de les conquérir. Qu'est-ce qu'ils vont conquérir? Des bédouins? Rien. Lakin, en 23 ans, c'est devenu les maîtres du monde. Ça, c'est un événement qui ne s'est jamais produit comme ça dans l'histoire de l'humanité. Et toi, Yahri, aujourd'hui, t'appartiens à cette communauté. Cette communauté qui ne fait de distinction entre l'homme de couleur blanche, ni de couleur noire, ni rouge, ni grand de taille, ni petit en taille, ni riche, ni pauvre, qu'avec un seul critère, la piété. Pour ça, notre religion, c'est la religion d'Allah. C'est une force incomparable. Là, malheureusement, la plupart des musulmans ignorent leur religion. La plupart des musulmans ignorent leur religion. Et malheureusement, pour la plupart des musulmans aussi, on le dit avec beaucoup de tristesse, la religion, leur religion, c'est plus une priorité dans leur vie. C'est secondaire. Tout passe avant la religion. Amma sahaba, leur religion, c'est la priorité des priorités. Ils peuvent tout laisser tomber pour la religion. Mais ils ne laissent rien tomber dans leur religion pour des intérêts mondains. Hana, aujourd'hui, dès qu'il y a un petit souci, une petite épreuve, Allah, il t'éprouve. Allah, il peut te donner tout ce que tu veux et beaucoup plus que ce que tu veux. Lakin ici, il faut que tu saches que tu n'es pas dans le paradis dans ce bas monde. Ici, tu es dans une demeure d'épreuve. C'est un test, c'est tout. Et parmi ce qui fait qu'on est ainsi aujourd'hui et qu'on est dans cet état aujourd'hui, c'est l'ignorance de notre religion et même l'ignorance des notions basiques de la vie. On ignore notre religion et on ignore aussi ce que c'est les significations de quelques notions basiques, telles que la notion du bonheur. C'est quoi le bonheur? C'est quoi la réussite? C'est quoi l'échec? On ignore les vrais sens de ces termes-là. Le bonheur, c'est d'avoir un compte en banque rempli, de posséder 5 maisons à Paris, 10 au Maroc. Est-ce que quelqu'un comme ça, il est heureux? Il est dans le bonheur? C'est quoi la réussite? C'est de faire une entreprise et que ça rapporte beaucoup d'argent? Est-ce que c'est ça la réussite? Donc, il faut qu'on revienne à la vraie compréhension de ces termes. Ce que c'est le bonheur, ce que c'est la réussite, quelle est la valeur de ce bas monde, pourquoi je suis ici? Les questions existentielles. Pourquoi j'ai été créé? Et ainsi de suite. Et ça aide le croyant à avoir une vision claire dans sa vie, des objectifs tracés, desquels rien ne peut le dérouter. Et c'est ça le bon musulman. C'est celui qui a compris sa religion et il sait pourquoi Allah l'a créé et il se conforme à sa législation et c'est celui-là qui va profiter pleinement de dunya. C'est celui-là qui va être heureux, qui va être dans le bonheur, même s'il n'a pas d'argent. Il va être heureux dans le bonheur. Car le bonheur, ce n'est pas dans les poches ni dans les comptes bancaires, c'est dans le cœur. Allah, il le place dans le cœur de son serviteur. Proportionnellement à son attachement à sa religion. Plus tu es attaché à ta religion, plus tu seras dans le bonheur. Même si tu es éprouvé physiquement, tu es éprouvé par des maladies, dans ton apparence, mais tu seras dans un paradis dans ce bas monde. Et ça, ces sens-là, c'est des choses que vous ne pouvez jamais les voir chez des koufars. Est-ce que vous pouvez voir un kafir éprouvé par un cancer, ou là même plusieurs, éprouvé dans sa santé, qui vient perdre des proches, qui a les poches vides en plus, plein de problèmes de santé, et qui... Est-ce que vous pouvez trouver un kafir avec toutes ces choses-là, comme vous pouvez trouver un musulman avec toutes ces choses-là? Et ça, en général, si vous allez dans les pays de l'islam, vous les voyez, ces gens-là. Très éprouvés, plein de problèmes, il est souriant, il remercie Allah, alhamdoulilah. Ça, c'est quelque chose que vous ne trouverez jamais chez un kafir. Alash, l'importance de ta religion. Seulement la religion te donne ça. C'est pour ça qu'un homme sans religion, si vous me le permettez cette comparaison, entre parenthèses, c'est comme un ordinateur sans disque dur. Il est vide, vidé de tout. Il n'a pas de sens, il n'a pas de valeur. Il ne sait pas qu'est-ce qu'il fait ici. Et ça, si vous revenez à des témoignages datés, vous les entendez souvent s'exprimer comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est pour ça, vous voyez, ils testent tout dans leur vie. Ils ont la fortune, ils ont la richesse, ils ont tout essayé dans leur vie. Ils finissent par quoi? Par se donner la mort. Ils se suicident. Et ça, vous l'entendez par rapport à beaucoup de stars, beaucoup d'hommes riches qui ont fini par se suicider. Est-ce qu'un musulman qui a compris l'islam peut se suicider? Impossible. Taïb, revenons à nos questions. La 130e question de ce livre, l'auteur a dit ma ma'na al-iman bil jannati wan nar. Que signifie avoir la foi au paradis et en enfer? Il a dit ma'nahu at-tasdiq al-jazim. Ça signifie d'avoir la foi ferme, point qui n'est point ébranlé par un quelconque doute. Que le paradis et l'enfer sont des créatures d'Allah, qui sont créées à l'instant où on parle. Allah les a créées. Elles sont déjà créées. Et qu'elles vont rester éternellement. Le paradis est éternel. Et l'enfer est également éternel. Et qui sont impérissables. Et rentre dans la foi au paradis, la foi en tout ce qui a été rapporté par rapport au bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé dans le paradis. Tout ce qui est rapporté dans les textes. Également fait partie de la foi en enfer, la foi en tous les châtiments qui ont été décrits dans le Coran et dans la Sunna. Donc le paradis et l'enfer sont créés. Et à chaque fois que tu dis « Subhanallah », Allah plante pour toi un arbre dans le paradis. Et l'arbre du paradis, ce n'est pas comme l'arbre de Dunia. Il n'a en commun avec l'arbre de Dunia, le palmier du paradis, ce n'est pas comme un palmier de Dunia. Ils n'ont en commun que le nom. Alors, imagine si tout le temps qu'on perd à parler de futilité, imagine si tu ne perds pas de temps dans ta vie. À chaque fois que tu as un peu de temps, tu le consacres à dire Subhanallah, Alhamdulillah, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Ces quatre paroles, parmi les paroles les plus aimées par Allah. Et l'évocation d'Allah, c'est un thermomètre de ta foi. Ça y est, je le dis entre parenthèses. Ce n'est pas des expressions qui sont utilisées par les savants. Lakin, pour rapprocher des fois le sens, ça permet de comprendre plus facilement. Lakin, l'évocation d'Allah, c'est quelque chose qui t'indique ton niveau de foi. Si tu veux savoir quel est ton niveau de foi, regarde comment elle est ta langue avec l'évocation d'Allah. Car c'est la plus grande adoration de l'islam. Al-dhikr. C'est la plus grande adoration de l'islam. Quelqu'un peut dire, mais tawhid, n'est-ce pas l'adoration la plus importante? Mais dhikr, c'est du tawhid. C'est un pur tawhid. Tu dis subhanallah. Est-ce qu'il y a un tawhid plus grand que ça, que de dire subhanallah? Subhanallah, tu purifies Allah de tout défaut et de tout manquement. T'attestes qu'il est exempt de tout défaut et de tout manquement. C'est ça la signification de subhanallah. Tu dis alhamdulillah, t'attribues à Allah toutes les perfections. C'est ça la signification de alhamdulillah. Allahu Akbar. Allah est plus grand que toute autre chose par son essence, dans ses noms, dans ses attributs, dans son estime, dans son statut. Allah, Allahu Akbar. La ilaha illallah, c'est le pur monothéisme. C'est la clé du paradis. Donc, quelles sont les preuves comme quoi le paradis et l'enfer sont déjà créés? Allah nous a informé dans le Coran, dans plusieurs versets, qu'ils sont déjà créés. Il a dit, en parlant du paradis, « U'iddat lil muttaqin » qu'il a été préparé pour les vertueux, qu'il a été préparé pour les pieux, le paradis. Donc, il est déjà préparé. Ça, c'est un verbe dans le temps passé. Vous savez que les temps en arabe, ils sont de combien? Les adultes, maintenant. Tadali Abdullah.
Trois.
Wahia. Commence par le passé. Al-Mahdi. Al-Mudari. Al-Amr. Al-Mustaqbal. Naam, ahsant. En langue arabe, nous avons que trois temps. Il n'y a ni plus que parfait, ni passé. Pas assez simple, ni aucun de ces temps que j'ai jamais compris dans ma vie. En langue arabe, c'est très simple. Ou bien l'action se déroule avant que tu parles, c'est le passé. Pendant que tu parles, ça s'appelle le mudari. On peut le traduire par le présent. Lakin, ce n'est pas la même chose. Le mudari, c'est le présent et ça continue. Et nous avons, ici, l'action se déroule après le temps de parole. Ça s'appelle l'amr. C'est le futur. Taïb. Donc Allah a dit U'iddat lil muttaqin. Et par rapport à l'enfer, il a dit U'iddat lil kafirin. Préparé pour les mécréants. Pour ceux qui ne croient pas en Allah subhanahu wa ta'ala. Pour ceux qui vouent l'adoration à autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète ﷺ nous a informé dans plusieurs hadiths qu'il a vu le paradis. Donc qui peut me répondre parmi les enfants, quand est-ce que le Nabi ﷺ a vu le paradis et il a vu également l'enfer? C'est dans une nuit. Et non pas dans un rêve. Il les a vus réellement, avec ses propres yeux. C'est quoi cette nuit? Allez les enfants! Vous voyez qu'il y a besoin d'étudier la biographie du prophète. Parce que dans la biographie, tu vas étudier ce point. Comment s'appelle cette nuit? Laylatou? Hein? Naam, tfaddal. Avec le qamis. Le jeune avec le qamis Lomberg. Oui, mais hausse ta voix. Anna, je suis un peu vieux. Je ne sais pas si tu vois la barre blanche. Et en plus, j'entends pas bien. Et en plus, c'est à distance, là. Il n'y a rien qui m'aide. Tfaddal. Laylatul Qadr, non, désolé. C'est bien de connaître Laylatul Qadr, la meilleure nuit dans l'année. C'est bien. Lakin, ce n'est pas dans cette nuit-là que le Nabi Aslam a vu le paradis et l'enfer. Alors, on va passer aux adultes. Tfaddal Akhi, sur la chaise. Mashallah. Laylatul Mi'raj. Laylatul Isra, l'Israj. L'Isra, c'est le voyage nocturne vers la Palestine. Et ensuite, Nabi Aslam est monté au ciel, en compagnie de Jibril, alayhi salam. En une nuit, il est parti de la Mecque. Écoutez bien. En une nuit, le prophète, alayhi salam, est parti de la Mecque à la Palestine. Et de la Palestine, vers le ciel. Il est monté jusqu'à un degré où aucune créature n'est jamais arrivée. Aucune créature n'est jamais arrivée à ce degré. Et il a parlé de vive voix avec Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que le prophète alayhi salam a vu Allah avec ses yeux? Les enfants? Oui? Il l'a vu? Naam, le jeune avec le qamis? Non? Je vais supposer que tu as dit non. C'est la bonne réponse. Donc, personne ne pourra voir Allah pendant ce bas monde. Les croyants verront Allah dans le paradis. Mais avant ça, ils n'ont pas la capacité de le voir. Allah a montré une infime partie de lui. Allah subhanahu wa ta'ala a montré un peu de sa lumière à une montagne. Elle a été réduite en poussière. Personne n'a la capacité de voir Allah. Lakin, dans le paradis, notre création va changer. Ça sera le même corps, mais pas. Il sera doté de plus de force. Plus de force. De manière à pouvoir supporter le fait de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le plus grand bienfait qu'Allah accordera aux gens du paradis. Il n'y a pas quelque chose qui est meilleur que ça. Le fait de pouvoir voir Allah subhanahu wa ta'ala réellement comme il convient à sa grandeur et sa majesté. Subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah ne nous prive pas de le voir. Subhanahu wa ta'ala dans son paradis. Taïb. Et les versets sont très nombreux. Et également l'ahadith. Et Nabi alayhi salam nous a informé que la personne, quand elle meurt, quand elle est enterrée dans sa tombe, elle va voir sa place au paradis et sa place en enfer. Ça veut dire que le paradis et l'enfer sont déjà créés. Et le prophète alayhi salam nous a informé dans un hadith authentique que la grande chaleur que nous ressentons pendant l'été, c'est un souffle de l'enfer. Un souffle. Dans un hadith authentique, ishtakati an-naru ila rabbiha faqalat rabbi akala ba'di ba'da fa adhina laha bi nafasin. Dans un hadith authentique, l'enfer s'est plaint à Allah subhanahu wa ta'ala. Il lui a dit: Seigneur, yani des parties, qu'il a été dévoré par sa propre fureur et qu'elle s'est mise à consumer ses propres parties. Tellement elle est chaude et brûlante. Le feu de l'enfer, c'est 70 fois plus fort que tout le feu de ce bas monde. Donc elle s'est plaint à Allah subhanahu wa ta'ala pour lui permettre une respiration. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a accordé deux respirations. Une en été et une en hiver. Celle en été, c'est la chaleur que nous ressentons pendant l'été. Toute cette chaleur. Et celle en hiver, c'est le froid glacial que nous avons en hiver. Et dans un autre hadith, Al-humma min fayhi jahannam. La fièvre provient du souffle de l'enfer. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit, tempérez-la donc par la fraîcheur de l'eau. C'est pour ça, parmi les remèdes qui sont utilisés par nos mères, quand on a une fièvre et quand on est encore petit, au lieu de donner des médicaments qui sont en réalité des poisons et pas des médicaments, qu'est-ce qu'elle faisait ? Elle nous mettait des torchons frais sur le front pour rafraîchir et diminuer la température. Donc ça, c'est parmi les remèdes yani contre la fièvre. Lakin, il faut être vigilant quand c'est un nourrisson ou un enfant en bas âge d'une manière générale, il faut rester vigilant. Car la température, si elle dépasse un certain stade, elle peut être dangereuse. Et elle peut provoquer des dégâts irréversibles sur la santé de l'enfant. Lakin, d'une manière générale, quand ça commence à augmenter, on peut la diminuer rien qu'avec quelque chose comme ça. Et dans l'autre hadith, quand Allah a créé le paradis et l'enfer, il a envoyé Jibril, il lui a ordonné d'aller voir le paradis et l'enfer. Et Jibril a vu le paradis, il a vu l'enfer. Le hadith, il est connu. Donc tout ça, c'est pour dire que le paradis et l'enfer sont déjà créés. Quelles sont les preuves dans la question suivante, la 132e question, quelles sont les preuves qu'ils sont éternels, le paradis et l'enfer? Et ça, c'est dans énormément de versets. Allah dit, « Khalidina fiha abada, dhalika al-fawzul azim. » Ils resteront éternellement dans le paradis, c'est ça la grande réussite. On parlait tout à l'heure de la réussite et de la notion, de la bonne compréhension de ce que c'est la réussite. Voilà la réussite. C'est la réussite qui est mentionnée dans le Coran et dans la Sunna. C'est ça la vraie réussite. C'est pour ça dans la salat, quand on t'appelle à la salat, on ne te dit pas « viens à la réussite ». « Viens au najah ». La réussite, ça se traduit par « najah ». On ne te dit pas ça dans l'adhan. On te dit quelque chose d'encore plus fort. Qu'est-ce qu'on t'en dit? Hein? L'ikhwa min juzul al-qamar. Tfadal, ya akhi. On te dit, hayya ala al-falah, viens au falah. C'est pas on te dit, viens au najah. On te dit, viens au falah. Le falah, c'est un mot unique dans la langue arabe, qui permet d'exprimer une chose incroyable. Souvent, ils traduisent le falah par le succès ou la réussite. Là, le falah, quand tu l'étudies en langue arabe, c'est pas seulement le najah. Le falah, c'est certes la réussite et le succès, mais aussi d'être préservé de tout mal. C'est ça, le falah. Par exemple, tu as fait une bonne affaire, tu as gagné 1000 euros. Ça, c'est une réussite. Là, si à côté, tu as une amende de 1000 euros, alors elle est où la réussite là? Il n'y a pas de réussite. Le falah, c'est les deux. Tu es épargné de ce que tu n'aimes pas et tu obtiens ce que tu aimes. Amma najah, non. Tu as eu ton bac, tu as réussi. Njaht. Même si tu perds un proche, tu perds ta mère, tu perds ton père, tu as réussi. On va pas te dire que tu as échoué. Lakin, ce n'est pas le falah. Taïm. Allah Azza wa Jalla dit par rapport à l'enfer, « Wa ma hum minha bi mukhrajin » que les mécréants ne sortiront jamais de l'enfer. Les mécréants ne sortiront jamais de l'enfer. Ils resteront éternellement en enfer. La ilaha illallah. Qu'est-ce que ça fait peur, ça? Qu'est-ce que ça fait peur de devoir rester éternellement dans un palais dans lequel il y a tout ce que t'aimes? Qu'est-ce que ça fait peur? Peut-être quelqu'un parmi vous qui n'a jamais médité sur ça, il doit s'étonner maintenant. Mais un palais dans lequel il y a tout ce que j'aime, c'est bien. Et après, il reste 20 ans dans un palais enfermé, ça devient une prison, c'est plus un palais. Reste 20 ans dans un palais où il y a tout ce que tu aimes. Tu vas finir par te suicider. Alors, que dire de rester éternellement dans un châtiment dont un ne ressemble pas à l'autre et dont l'instant qui suit ne ressemble pas à l'instant précédent. À l'instant précédent. Ahna, les blédards, on a un problème avec le masculin et le féminin. Vous nous excusez. Faut que je réfléchisse des fois. يعني هذا هو l'enfer. C'est pas seulement t'es dans un endroit où il y a toutes ces formes de châtiment. نسأل الله السلام والعافية. Qu'Allah nous préserve de ça. Et de devoir rester éternellement. Éternellement, dites-vous que c'est pas un milliard d'années ou la 10 milliards d'années ou la 1 milliard, 2 milliards. Éternellement, c'est sans fin. Il n'y a pas d'infini en mathématiques. Comme je vous ai déjà dit, je pense. Lakin, l'infini, c'est dans l'au-delà. Mais dans les mathématiques, il n'y a pas plus l'infini, moins l'infini. Ça, c'est parmi les erreurs dans les mathématiques qui sont liées à la croyance. Il y en a ceux qui ont fait ces choses-là, ce n'est pas des croyants. Taïb. Lakin, les mathématiques, c'est une science très intéressante. Que personnellement j'aime beaucoup. Et que l'imam Shafi'i a loué. Il a fait les éloges des mathématiques. Et en particulier le calcul. Déjà savoir compter ton argent, tu ne te fais pas arnaquer par les gens. Déjà compter. Et aussi le calcul, c'est nécessaire dans la science de l'héritage. Ceux qui ont des facilités dans le calcul, ils apprennent facilement cette science de l'héritage. Alors que vous pouvez entendre qu'il y a des savants qui n'ont pas maîtrisé cette science. Lakin, il y a toujours dans la communauté des hommes de science qui la maîtrisent. C'est une science qu'on peut étudier en un mois. Elle est toute petite. C'est une science qui t'apprend à répartir l'héritage entre les héritiers. Donc tout d'abord, tu dois connaître qui sont les héritiers? Il n'y en a pas tous les membres de la famille héritent. Je vous donne une règle. Quand tu laisses un fils, il n'y a plus personne qui hérite de toi. À part tes descendants et tes ascendants. Pour ça, avoir un garçon, ça ferme la porte à tout le monde. Les oncles, les tantes, personne n'hérite. Il n'y a que les ascendants et les descendants. Les parents, le mari, si c'est une femme, son mari, le mari, il hérite toujours. Et l'épouse, elle hérite toujours de son mari. Il n'y a rien qui peut les empêcher à des deux. Et après, les parents, ils héritent tout le temps. Et les descendants directs, c'est-à-dire les fils et les filles, ceux-là aussi, personne ne peut les empêcher d'hériter. Yani, c'est ce qu'ils appellent en français la famille nucléaire. Yani, les plus proches. Après, quand il y a un garçon, quand il y a un fils, il empêche tous les membres de la famille d'hériter. C'est pour ça les questions d'héritage les plus simples, quand ils te disent il y a un fils, tu supprimes tout le monde, tu laisses juste les ascendants et les descendants. Et après, il y a des choses qui peuvent empêcher l'héritage, comme d'être sur deux religions différentes. Un musulman n'hérite jamais d'un chrétien. Un chrétien n'hérite jamais d'un musulman. Le meurtre, quelqu'un qui tue quelqu'un, il n'héritera pas de lui. Sauf dans un cas unique, exceptionnel. un père qui tue son fils. Qu'est-ce qui empêche de l'héritage ? يعني المهم هذا هو. Donc on a dit quelles sont les preuves comme quoi elles sont éternelles. Et ça c'est l'avis de la majorité des savants. Il n'y a pas de divergence sur le fait que le paradis est éternel et que ceux qui vont rentrer au paradis vont rester éternellement. Il n'y a pas de divergence. Je ne pense pas qu'il y a quelqu'un qui a dit qu'il y a une divergence à ce sujet-là. Là, qui est au sujet de l'enfer, il y a une petite divergence. Il faut savoir que la majorité des savants disent que l'enfer est éternel. Il y a quelques hommes de science, et cet avis, c'est un avis qui n'a aucune valeur. On le mentionne juste parce que c'est un avis qui se dit. Il y a quelques hommes de science qui ont dit que l'enfer ne restera pas éternellement. Donc si on doit accepter cet avis et lui donner un peu de considération, alors on va le comprendre par rapport, comme ça a été rapporté de certains pieux prédécesseurs, que c'est l'enfer des mouahidin. Et ça c'est vrai. Car les monothéistes, il y a des monothéistes qui vont être châtiés en enfer ? Oui, non, les enfants. Il y a des gens qui adorent Allah sans rien lui associer qui vont aller en enfer ? Oui, non. Et Allah, au pifomètre. Wahad, Jouj. Non. Moi, je vous dis oui. Pourquoi ? Parce qu'ils auront commis des grands péchés desquels ils ne se sont pas repentis. Et Allah ne leur a pas pardonné. Allah, il va pardonner à certains. À d'autres, il ne va pas pardonner. Selon sa sagesse. Et donc, ils vont être châtiés en enfer. Par exemple, des enfants, il n'y a pas des enfants. Parmi les péchés, ceux qui n'obéissaient pas à leurs parents. Ceux qui n'écoutaient pas leurs parents. Ça, c'est parmi les grands péchés en islam. C'est très grave. Ah non ? Ah oui, ça s'appelle uquq al-walidain. C'est parmi les plus graves péchés en islam. Car le droit le plus important en islam, c'est le droit d'Allah. Et le deuxième, c'est lequel ? Le droit des parents. C'est directement après le droit d'Allah. C'est pour ça, obéir à ses parents, c'est très important. Lakin, les parents, on leur dit aussi, il faut respecter vos enfants. Il faut les écouter. Il faut écouter ce qu'ils disent. Il ne faut pas les traiter comme le kuffar, qui, dans leur éducation des enfants, c'est un domptage, ils les traitent comme des animaux. Oui, t'écoutes. Non, ce n'est pas ça l'enfant qu'on veut en islam. En islam, on veut un enfant un petit peu têtu. Un enfant qui dit non. Un enfant qui n'est pas convaincu facilement. C'est ça le bon, qui sera plus tard le bon musulman, qui va défendre ses convictions avec force. Un enfant qui te dit oui pour tout ce que tu veux, il est bien avec toi, il sort dehors, la rue, quand il va aller dans la société, il sera facilement influençable par les autres. Car il est habitué à dire oui à tout ce qu'on lui dit. Hada, c'est le domptage des animaux. L'analkoufar, un homme, l'être humain, c'est un animal un petit peu plus sophistiqué, qui s'est développé un petit peu plus, selon Darwin. Donc c'est pour ça l'éducation chez eux, ils veulent des enfants qui disent oui à ce qu'on leur dit. Nous, on ne veut pas ces enfants. On veut des enfants qui ont du caractère, qui ont une personnalité, qui discutent avec son père, lakin avec du respect. Non, Abi, je ne suis pas d'accord sur ça. Tu veux que je fasse médecine ? Non, moi je préfère faire ça. Ah donc, mal enfant qu'on veut en islam. Des enfants avec des personnalités fortes, des enfants avec une grande piété, qui nécessitent une grande connaissance de la religion de l'islam. C'est ça l'enfant qu'on souhaite avoir. Comme c'était le cas des compagnons. Voilà mes frères pour aujourd'hui. C'est déjà l'Iqama. Wallah al-musta'an. Laquelle on va essayer de s'organiser, Inch'Allah, pour que la semaine prochaine, pour qu'on ait un petit peu plus de temps et qu'on essaie de profiter un petit peu plus. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.